Départ pour Combourg. Description du château. Je devais suivre mes sœurs jusqu'à Combourg. Nous nous mîmes en route dans la première quinzaine de mai. Nous sortîmes de Saint-Malo au lever du soleil, ma mère, mes quatre sœurs et moi, dans une énorme berline à l'antique, panneaux surdorés, marchepieds en dehors, gland de pourpre aux quatre coins de l'impériale. 8 chevaux parés, comme les mulets en Espagne, sonnaient au cou, grelés aux brides, housses et franges de laine de diverses couleurs, nous traînaient. Tandis que ma mère soupirait, mes deux sœurs parlaient à perdre haleine. Je regardais de mes deux yeux, j'écoutais de mes deux oreilles. Premier pas d'un juif errant qui ne se devait plus d'arrêter. Encore si l'homme ne faisait que changer de lieu. Mais ses jours et son cœur changent. Nos chevaux reposèrent un village de pêcheurs sur la grève de Cancale. Nous traversâmes ensuite les marais et la fiévreuse ville de Dole. Passant devant la porte du collège, où j'allais bientôt revenir, nous nous enfonçâmes à l'intérieur du pays. Durant 4 mortelles lieues, nous n'aperçûmes que des bruyères guirlandées de bois, des friches à peine écrêtées, des semailles de blé noir, court et pauvre, et d'indigentes avenières. Les charbonniers conduisaient des files de petits chevaux à crinière pendante et mêlée. Des paysans à saillons de peau de bique, à cheveux longs, pressaient des bœufs maigres avec des cris aigus et marchaient à la queue d'une lourde charrue comme des faunes labourants. Enfin, nous découvrîmes une vallée au fond de laquelle s'élevait, non loin d'un étang, la flèche de l'église d'une bourgade. À l'extrémité occidentale de cette bourgade, les tours d'un château féodal montaient dans les arbres d'une futaie éclairée par le soleil couchant. J'ai été obligé de m'arrêter. Mon cœur battait au point de repousser la table sur laquelle j'écris. Les souvenirs qui se réveillent dans ma mémoire m'accablent de leur force et de leur multitude. Et pourtant, que sont-ils pour le reste du monde ? Descendus de la colline, nous guérîmes un ruisseau. Après avoir cheminé une demi-heure, nous quittâmes la grande route, et la voiture roula au bord d'un quinconce, dans une allée de charmilles dont les cimes s'entrelaçaient au-dessus de nos têtes. Je me souviens encore du moment où j'entrai sous cet ombrage et de la joie effrayée que j'éprouvai. En sortant de l'obscurité du bois, nous franchîmes une avant-cour plantée de noyers, attenant au jardin de la maison du régisseur. De là, nous débouchâmes par une porte bâtie dans une cour de gazon, appelée la cour verte. À droite étaient de longues écuries et un bouquet de marronniers. À gauche, un autre bouquet de marronniers. Au fond de la cour, dont le terrain s'élevait insensiblement, le château se montrait entre deux groupes d'arbres. Sa triste et sévère façade présentait une courtine portant une galerie à mâchicoulis, denticulée et couverte. Cette courtine lie ensemble deux tours inégales en âge, en matériaux, en hauteur et en grosseur. Lesquelles tours se terminaient par des créneaux surmontés d'un toit pointu, comme d'un bonnet posé sur une couronne gothique. Quelques fenêtres grillées apparaissaient çà et là sur la nudité des murs. Un large perron, raide et droit de 22 marches, sans rampe, sans garde-fou, remplaçait sur les fossés comblés l'ancien pont-levis. Il atteignait la porte du château, percée au milieu de la courtine. Au-dessus de cette porte, on voyait les armes des seigneurs de Combourg et les taillades à travers lesquelles sortaient jadis les bras et les chaînes du pont-levis. La voiture s'arrêta au pied du perron. Mon père vint au-devant de nous. La réunion de la famille adoucit si fort son humeur, pour le moment, qu'il nous fit la mine la plus gracieuse. Nous montâmes le perron, nous pénétrâmes dans un vestibule sonore, à voûte ogive, et de ce vestibule dans une petite cour intérieure. De cette cour, nous entrâmes dans le bâtiment, regardant au midi sur l'étang, et jointif des deux petites tours. Le château entier avait la figure d'un char à quatre roues. Nous nous trouvâmes de plain pied dans une salle jadis appelée la salle des gardes. Une fenêtre s'ouvrait à chacune de ses extrémités. Deux autres coupaient la ligne latérale. Pour agrandir ces quatre fenêtres, il avait fallu excaver des murs de 8 à 10 pieds d'épaisseur. Deux corridors à plein incliné, comme le corridor de la Grande Pyramide, partaient des deux angles extérieurs de la salle et conduisaient aux petites tours. Un escalier, serpentant dans l'une de ces tours, établissait des relations entre les salles des gardes et l'étage supérieur. Tel était ce corps de logis. Celui de la façade de la grande et grosse tour, dominant le nord, du côté de la cour verte, se composait d'une espèce de dortoir carré et sombre, qui servait de cuisine. Il s'accroissait du vestibule, du perron et d'une chapelle. Au-dessus de ces pièces était le salon des archives, ou des armoiries, ou des oiseaux, ou des chevaliers, ainsi nommés d'un plafond semé d'écussons coloriés et d'oiseaux peints. Les embrasures des fenêtres, étroites et tréflées, étaient si profondes qu'elles formaient des cabinets autour desquels régnait un banc de granit. Mêlé à cela, dans les diverses parties de l'édifice, des passages et des escaliers secrets, des cachots et des donjons, un labyrinthe de galeries couvertes et découvertes, des souterrains murés dont les ramifications étaient inconnues. Partout silence, obscurité et visage de pierre. Voilà le château de Combourg. Un souper servi dans la salle des gardes, où je mangeais sans contrainte, termina pour moi la première journée heureuse de ma vie. Le vrai bonheur coûte peu. S'il est cher, il n'est pas d'une bonne espèce. À peine fus-je réveillé le lendemain que j'allais visiter les dehors du château et célébrer mon avènement à la solitude. Le perron faisait face au nord-ouest. Quand on était assis sur le diasome de ce perron, on avait devant soi la cour verte, et au-delà de cette cour, un potager étendu entre deux futaies. L'une, à droite, le quinconce par lequel nous étions arrivés, s'appelait le Petit Mail. L'autre, à gauche, le Grand Mail. Celle-ci était un bois de chêne, de hêtre, de sycomore, d'orme et de châtaignier. Madame de Sévigné vantait de son temps ses vieux ombrages. Depuis cette époque, 140 années avaient été ajoutées à leur beauté. Du côté opposé, au midi et à l'est, le paysage offrait un tout autre tableau. Par les fenêtres de la grande salle, on apercevait les maisons de Combourg, un étang, la chaussée de cet étang sur lequel passait le grand chemin de Rennes, un moulin à eau, une prairie couverte de troupeaux de vaches, et séparée de l'étang par la chaussée. Au bord de cette prairie s'allongeait un hameau dépendant d'un prieuré fondé en 1149 par Rivalon, seigneur de Combourg, et où l'on voyait sa statue mortuaire couchée sur le dos, en armure de chevalier. Depuis l'étang, le terrain s'élevant par degrés, formait un amphithéâtre d'arbres, d'où sortaient des campaniles de villages et de tourelles de gentilhommières. Sur un dernier plan de l'horizon, entre l'Occident et le Midi, se profilaient les hauteurs de Bécherelles. Une terrasse bordée de grands buis taillés circulait au pied du château de ce côté, passait derrière les écuries et allait, à divers replis, rejoindre le jardin des bains qui communiquait au Grand Mail. Si, d'après cette trop longue description, un peintre prenait son crayon, produirait-il une esquisse ressemblant au château? Je ne le crois pas. Et cependant, ma mémoire voit l'objet comme s'il était sous mes yeux. Telle est dans les choses matérielles l'impuissance de la parole et la puissance du souvenir. En commençant à parler de Combourg, je chante les premiers couplets d'une complainte qui ne charmera que moi. Demandez au pâtre du Tyrol pourquoi il se plaît aux trois ou quatre notes qu'il répète à ses chèvres, notes de montagne jetées d'écho en écho, pour retenir du bord d'un torrent au bord opposé. Ma première apparition à Combourg fut de courte durée. 15 jours s'étaient à peine écoulés que je vis arriver l'abbé Porcher, principal du collège de Dole. On me remit entre ses mains, et je lui suivis, malgré mes pleurs.